Ça va mieux, Jacques Lavergne.
Jean-François Mignard.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Alors pour commenter cette actualité avec Jean-François, nous sommes en compagnie, vous l'avez déjà entendu, elle a son rond de serviette dans l'émission, Laure Ortiz, professeure de droit agrégée émérite et à Sciences Po Toulouse. Lydia Dantas, qui est étudiante en journalisme à l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse, dit ISJT, que vous entendrez tout à l'heure dans ses œuvres, et Yanis Redonné, qui est à côté de nous, et que lui, par contre, vous n'entendrez pas, mais certainement aujourd'hui. Mais la prochaine fois, on l'entendra. Alors, de quoi allons-nous parler? On ne va pas vous étonner beaucoup, on va parler du résultat des européennes, et puis de ce qui en a suivi immédiatement après la dissolution de l'Assemblée nationale. Et enfin, Lydia nous parlera un peu de sa vision de la couverture journalistique du conflit Israël-Palestine. Voilà, c'est Ça va mieux, c'est parti, et c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Alors, citation, vous savez qu'on commence toujours par des citations.
C'est la colle.
Alors, celui qui craint le ciel choir fait le ciel chu. Madame le professeur des universités. Il est connu, il s'appelle Montaigne.
Je le voyais plutôt auvergnat.
Attends.
Plutôt que girondin.
Non, il est girondin. Celui qui craint le ciel choir fait le ciel chu. Ça peut illustrer un peu une certaine citation.
Oui.
Et puis une autre, la résignation est un suicide quotidien. On tourne vers vous. Bon, c'est pas les chiffres et les lettres, c'est pas un quiz.
Oui, c'est ça. Hein. C'est pas qu'on joue au Trivial Poursuite en arrivant ici.
Si, c'est le bizutage.
La poursuite est triviale.
C'est Balzac.
Balzac. D'accord. Voilà.
Bien, alors, quelques chiffres, parce qu'il faut toujours en donner, il n'y a pas que les mots. 22% des électeurs du PS disent savoir hésiter avec Renaissance, le parti macronien. Curieux, non? Et selon Harris Interactive, 32% des partisans du PS déclarent qu'ils ne voteront pas pour un candidat de la gauche unie, mais soutiendront éventuellement des candidats dissidents. Donc le front n'est pas encore
stabilisé,
comme on dit, ni très raffermi. Et puis un tiers des électeurs de Bellamy ont quand même hésité avec Valérie Ayer, au moment où le LR avec tous ces explose. Voilà. Premier sondage Harris pour les législatives. Le RN ferait 34% au premier tour, la gauche unie 22%, Renaissance 19%. Est-ce que Macron a des réserves de voix? Peut-être du côté d'LR, quelque chose comme 9%, ou quelques dissidents de gauche, à peu près dans les mêmes proportions. Mais enfin, tout ça ne sont que des vagues prévisions plus ou moins fumeuses. On va attendre d'être un peu plus avancé, voire même le résultat, parce que les prévisions, c'est toujours très compliqué à faire dans cette matière. Alors, premier sujet, vous l'avez vu, nous vivons une époque formidable, le monde n'est que tension, guerres et conflits divers, un certain nombre de pays vivant sous le joug de dictateurs sanguinaires, d'autocrates sans scrupules, vous en avez partout, hein, Russie, Chine, Iran. Ils ne pensent qu'à une chose, ces braves gens, balayer nos démocraties qui leur font de l'ombre, ces espaces de liberté, de paix, de créativité, qui inspirent de bien mauvaises pensées à leur population. Notre planète flambe sous l'effet d'une mutation climatique accélérée, de la pollution protéiforme, de l'écroulement de la biodiversité. Bref, la survie de nos civilisations est gravement menacée. Alors tout ça, on le sait, hein, c'est largement su par tout le monde, c'est largement documenté, c'est prouvé. Personne ne peut plus ignorer aujourd'hui les défis géopolitiques, environnementaux, économiques, sociaux que nous devons affronter. Et ce sont des murs qu'il va falloir franchir, des défis qui nécessitent l'implication de toutes et de tous pour les surmonter. Et en tout cas, qui implique que nous placions aux manettes de nos sociétés les plus capables d'entre nous. Et au lieu de cela, que voit-on ? Eh bien, on voit une partie du pays qui ne se rend pas aux urnes, une autre qui donne la majorité à un ou des partis au programme vide, absurde, voire même dangereux. Et soyons directs, francs et clairs, enfin, en tout cas, je le suis, des partis dont on sait que les dirigeants n'ont ni les compétences, ni la culture, ni la technicité leur permettant de gouverner notre pays. Sans parler, bien sûr, des idéologies qui sont les leurs, nettement nauséabondes sur le plan humain, et qui, de mon point de vue, constituent tout simplement une régression cognitive de l'humanité. Et au milieu de ce foutoir, nous avons un président de la République, qui a largement, d'ailleurs, contribué à créer cette situation, mais... rendons-lui justice, il n'est pas le seul, qui vient fragiliser le pays, la démocratie, l'avenir de la France, en dissolvant à la hussarde l'Assemblée nationale. Alors on connaît depuis longtemps, c'est pas une surprise, la taille considérable de l'ego de ce garçon, son hubris, comme le disait un de ses anciens ministres d'expérience, lui, un garçon qui est décédé mais qui vivait à Lyon et qui en était le maire. On connaît sa volonté de tout diriger, maîtriser, on connaît sa prétention à mieux savoir et comprendre que les autres, à nous expliquer la vie, et l'on a surtout compris depuis belle lurette qu'il ne possède ni l'épaisseur humaine, ni la forme d'intelligence nécessitée par la fonction. Un acte politiquement irresponsable en ce qu'il va fragiliser le pays par des calculs de base politique à la cohérence douteuse, ouvrant possiblement la voie du pouvoir au RN, et qui va plonger ce même pays dans une campagne électorale trop courte pour permettre aux forces démocratiques de s'exprimer, aux passions de s'apaiser, au pays de réfléchir sereinement et de faire des choix éclairés. Tout cela, excusez du peu, au milieu des vacances d'été, des Jeux Olympiques, d'une guerre à nos portes, sous le regard de nos partenaires européens quelque peu effarés, et de la finance mondiale qui lorgne avec inquiétude sur nos 3101 milliards d'euros et quelques de dettes. Non, monsieur Macron, nous ne sommes pas des pions sur un damier. La France n'est pas un vaste jeu d'échecs. La vie politique n'est pas une distraction intellectuelle. Les Français, quel que soit d'ailleurs leur penchant politique, méritent plus de considération. Sur cette question, Laure Ortiz, pour débuter.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre analyse ? Qu'est-ce que c'est que tout c'est ça ?
Oui, je me doutais. C'est un peu redoutable, je dois dire, parce que depuis les élections, on a assisté à une diversité incroyable d'analyses.
Mais on n'a pas eu la vôtre.
Un peu dans tous les sens, c'est vrai. Et je me demandais bien comment ne pas rajouter au bruit ambiant, au bruit de fond.
En disant alors, des propos intelligents, ce que dont on ne doute pas que vous allez faire.
Je suis en grande partie d'accord avec cet édito qui est toujours évidemment
merci,
bien balancé.
Un excellent édito.
Merci. Par les temps qui courent, cette pommade me va, si je puis dire, droit au cœur.
On manque un peu de cirage aujourd'hui. Mais...
non, j'apporterai quelques bémols quand même. D'abord, je pense que la dissolution était absolument inévitable. Voilà, je crois, elle était inévitable. Est-ce qu'elle tombe au bon moment ? Est-ce qu'il pouvait la différer ? Est-ce qu'il pouvait dire, par exemple, je dissous l'Assemblée en septembre, préparez-vous les camarades ? Ce qui aurait été un peu plus démocratique, c'est exact, que de finalement mettre à exécution comme ça, d'emblée, les délais posés par la Constitution, qui sont délirants quand même, ces délais. De 20 jours. Et ça, en effet, les conditions dans lesquelles les scrutins sont appelés à se dérouler fait que, à mon avis, c'est quand même assez antidémocratique et on peut être un peu surpris, finalement, de toute la rhétorique que le président a servi notamment pendant sa conférence de presse pour justifier en termes démocratiques.
C'est un euphémisme.
Je pense, franchement, que la dissolution, elle était inévitable, c'est-à-dire que le gouvernement... Enfin, le pouvoir devient... plutôt, la situation devenait ingouvernable. Et je pense qu'il allait à la catastrophe. il ne pouvait pas ne pas dissoudre précocement. Ce que je crois, c'est qu'en effet, il vient d'augurer un acte qui est terrible dans ses conséquences, parce que la probabilité qu'il n'y ait pas de majorité absolue du RN est très forte, et donc on va rentrer avec dans une période où on aura certainement une assemblée nationale divisée en blocs qui vont avoir un mal fou aussi à s'entendre ou à s'allier. Et donc, on va arriver peut-être à une situation d'ingouvernabilité, d'instabilité ministérielle. C'est ce que disaient des observateurs italiens, mais le constat que font aussi énormément d'éditorialistes. Et je suis un peu d'accord avec cette analyse. Et donc, je me demande, en effet, depuis dimanche, quel est le calcul qu'a fait Macron. Et contrairement à ce qu'il a raconté, ou même plutôt indépendamment de ce qu'il a raconté pendant la conférence de presse, j'avoue que je pense, moi, plutôt qu'on va vers des élections présidentielles anticipées, tôt ou tard.
Ah, voilà un pronostic intéressant. Jean-François, étant quand même rappelé que Macron s'est beaucoup investi dans les élections européennes, qu'il nous a dit que ça n'avait rien à voir avec lui pendant 2 mois, que ça n'avait rien à voir avec la France, et sans quoi il avait d'ailleurs parfaitement raison, mais que, très curieusement, ce qui prouve qu'il n'est pas très cohérent, il en a tiré des conclusions au niveau du pays. Comprenne qui pourra.
On n'est pas un paradoxe près, de toute façon, de ce point de vue-là. Mais...
Non, mais imaginez, représentez-vous le gouvernement aujourd'hui avec un tel désaveu. Quand on voit la carte qui a été publiée dans Le Monde et qu'on voit une carte de France absolument noire, avec juste quelques petites taches roses, enfin, je me demande, en effet, comment on peut gouverner en ayant un tel désaveu. C'est-à-dire un pays qui, massivement, a fait un référendum anti-Macron. Enfin, donc moi,
il y en avait eu d'autres sur les retraites, sur d'autres sujets où les gens étaient quand même dans la rue. Alors on les a un peu éborgnés, mais à part ça, ça voulait dire quelque chose. Ça fait un moment que les gens disent on ne te veut plus, ou en tout cas on ne veut pas que tu nous diriges comme cela.
Il fallait bien qu'il en tire les conclusions.
Oui, c'est étonnant parce qu'il y avait une conclusion qu'il aurait pu tirer. Alors bon, qu'il démissionne, après tout. Après tout, si effectivement on doit aller vers des présidentielles, et si le pays est ingouvernable, et si c'est un désaveu politique, et un désaveu politique massif, j'imagine que c'est même pas quelque chose qui est envisageable de la part de Macron. Je veux dire, c'est faire trop d'honneur que de tirer sur le personnage, j'ai envie de dire, tellement il a usé et abusé de sa fonction, il a menti, il a pris toutes les postures possibles et imaginables. Je veux dire, on ne tire pas sur c'est même pas une ambulance de ce point de vue-là. Le personnage, je pense, est assez... laissera pas une trace très brillante dans l'histoire, mais peu importe au-delà de la question que la question du personnage. Je pense que la difficulté, c'est que on est dans une logique comme ça politique aujourd'hui, dans laquelle on peut même pas imaginer qu'un président de la République désavoué démissionne. C'est quand même terrible, ça. Comme disait un politicien largement engagé dans l'affaire, et sur lequel je trouve il a pas tort, il a dit les gens les plus légitimes, il les a démissionnés. Et lui, il est resté. C'est-à-dire qu'il a démissionné des gens qui venaient d'être élus, qui, pour le coup, avaient au moins la légitimité du suffrage universel, alors que lui-même, au bout d'un désaveu qui est un désaveu massif de la personne, parce que c'est effectivement très personnalisé, n'imagine pas, et j'ai l'impression même, c'est ça qui je trouve un peu étonnant comme ça, bon, c'est un peu impressionniste, qu'on n'imagine même pas que ce soit possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un politique qui est complètement désavoué par le pays, eh bien, il reste. Hein, parce qu'on trouve normal, après tout, qu'un homme politique est capable de faire à peu près tout pour rester à la place qu'il occupe. Ce qui est quand même étonnant, non ? Je ne sais pas, moi, c'est quand on y réfléchit un petit peu au fond, en dehors de... Justement, des chroniqueurs, des évidences, des choses que nous avons complètement, quasiment incorporées sur ce que c'est de faire de la politique, on n'y pense même pas. Voilà. C'est pour dire que je pense si la crise est profonde, au-delà d'une crise entre guillemets, régime.
Je pense que ça aurait été assez cocasse que le président démissionne à la suite d'une élection européenne. Il me semble que la première étape était en effet de rejouer. D'accord, ça fait un effet choc. Moi, ça m'a choqué. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais enfin, l'effet de choc étant passé, je me dis, ouais, finalement, il n'avait pas le choix. Ce type-là n'avait pas le choix.
Et il avait peut-être le choix du moment, alors pas
oui, avant voilà,
les gens partent en vacances. Aujourd'hui, il y a une course à la procuration parce qu'il faut trouver quelqu'un pour voter. Compte tenu des enjeux, peut-être que ça réveillait certains qui n'allaient pas vraiment aux urnes. Il y a les vacances, il y a les Jeux Olympiques qui vont constituer pour les Parisiens un foutoir considérable qui va leur pourrir la vie. Et puis, vous rappeliez, mais ça c'est constitutionnel, il n'y a quand même que 20 jours pour se retourner dans une situation aussi pagaille pour le moins, tout ça, ça tombe quand même extrêmement mal. On pouvait peut-être laisser passer l'été et début septembre, il aurait très bien pu prendre une décision peut-être
c'est
de
la
cet
question
ordre.
C'est la question que je pose. Pourquoi n'a-t-il pas déclaré qu'il dissoudrait en septembre? Pourquoi? Pourquoi avoir cet effet de surprise? Moi, j'avoue que ça, j'ai pas vraiment une réponse.
On a l'impression un peu de l'enfant qui a pris une claque et qui est vexé, qui fait un caprice.
Il
est un peu plus arrogant que ça, que l'enfant qui fait un caprice. C'est-à-dire qu'il y a un coup politique là derrière. Il joue le pari de rassembler après avoir fait éclater la droite. Et à mon avis, la gauche, elle a quand même peu de probabilité de tenir bien longtemps ensemble. Elle est déjà tellement divisée qu'on a beau s'être mis d'accord sur la répartition des circonscriptions, je pense qu'il sait que la division, elle est acquise à gauche. Et donc, en précipitant les choses comme ça, il y va vers son... Il ne fait qu'accomplir ce qu'il a fait en arrivant au pouvoir, c'est-à-dire casser les oppositions... Et il espère engranger, finalement, les réserves de voix et arriver à s'en sortir avec une alliance faite de briques et de brocs. Parce que je pense que... je ne sais pas ce que dit Harris, mais... c'est ce que je...
Ouais, depuis Mitterrand, on nous le fait.
C'est voter
pour moi, parce que sinon, c'est le Front National. Bon, Mitterrand l'avait lancé en premier alors qu'il n'y avait pas de risque. C'était le premier épouvantail, mais à force, on va l'avoir. Et cette fois-ci, on pourrait bien l'avoir.
Bien sûr, ça, je le crois aussi. Mais je pense qu'il a fait un coup politique qui est de bénéficier du rassemblement.
Mais excusez-moi si je peux me permettre, il a raison de faire un coup politique, puisque aujourd'hui, ça fonctionne par coup. Il a fait Macron a fait ça. Mais je veux dire, Macron, on l'a élu. Il y a des tas de gens qui se sont ralliés à lui, des gens qui étaient dans l'opposition, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment une figure emblématique aujourd'hui de la crise du fonctionnement politique. C'est le cynisme absolu. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il veut rester à sa place.
C'est le cynisme, oui, c'est
oui,
ça.
Oui, il veut rester à sa place et qu'il est capable de faire à peu près tout pour rester à sa place et qu'on en est à imaginer que, somme toute, la politique, c'est ça. C'est des gens qui veulent rester à leur place.
C'est quand même extrêmement méprisant vis-à-vis des électeurs. C'est méprisant vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis de l'Assemblée nationale, vis-à-vis des députés qui travaillaient, par exemple, sur des textes comme le texte sur la fin de vie, dont on a parlé sur cette antenne, puisqu'on avait fait l'émission là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui attendent un texte sur la fin de vie. Tout ça est balayé, renvoyé.
Ce qui n'est pas balayé, c'est l'assurance chômage qui sera géré par décret. Mais
un président de la République, il est quand même un tout petit peu au-dessus de la mêlée. Là, on voit quoi? On voit un politicard de bas étage qui use de grosses ficelles pour se maintenir au pouvoir. C'est quand même un peu sidérant. Je pense que nos partenaires européens regardent ça, ils sont un peu effarés. Hein. Moi, j'ai entendu un politicien belge s'exprimer. Il n'a pas été très tendre pour Macron. Il a des responsabilités au plus haut niveau.
Oui.
Jean-François.
Oui, non, mais je suis toujours, moi, partagé sur Macron qui est... Parce que c'est...
Ah ben, il s'est mis devant, donc il tire toujours sur celui qui est devant. Il a voulu sortir du bois.
Il me semble qu'il ne faut pas justement rentrer dans cette espèce de, d'hyper-personnalisation sur laquelle il a joué. Bon, il a joué, il a perdu, mais il n'en tire pas les conséquences. Mais c'est difficile. On est confronté aujourd'hui à devoir... Alors, c'est souvent le cas, mais là, vraiment, à gérer des registres de temporalité très différents par rapport à ce qui se passe. C'est quand on voit ce à quoi on est confronté, c'est... il me semble que la question du tempo, de la manière de penser la vitesse, le rythme, les échéances, le moyen et le long terme... C'est quelque chose qui est aujourd'hui difficile à construire, parce qu'on peut toujours imaginer essayer de résoudre la difficulté dans le court terme, l'union qui va permettre de retarder la question qui est la question de la venue de l'extrême droite au pouvoir. Mais si on y réfléchit un peu, on voit bien que la question du moyen et du long terme est quand même traverse cette question-là. C'est-à-dire que si on ne gère que du long terme, dans le moyen terme, on a l'extrême droite au pouvoir. Et peut-être plus forte que si effectivement on... Et ce tempo, c'est là où c'est particulièrement pervers de la part de Macron, c'est que ça ne permet pas de penser les registres de temporalité, un peu les articuler les uns aux autres. Faire une alliance qui est une alliance politicienne pour résister à la montée de l'extrême droite, c'est quelque chose qui est voué à l'échec, peut-être pas dans le court terme, mais à peu près sûr dans le moyen et dans le long terme. Voilà. Et cette volonté d'accélérer les choses, de mon point de vue, c'est là où c'est du cynisme absolu, est une volonté pour éviter... Que les choses aient le temps de se construire. Et on assiste depuis Moi, je le vois du côté de la société civile, on est en train de le voir du côté politique. Mais ce que le macronisme a fait depuis des années, de manière de plus en plus forte, c'est de démanteler la société civile.
Moi, à peu près tout démantelé, les partis politiques, la société civile,
mais
le Parlement.
Ça veut dire que, par exemple, il y a eu un déni complet des syndicats comme représentants des salariés, et on est passé là-dessus.
Oui, c'est voilà. Tous les corps intermédiaires.
Oui. Les associations qui ont été mises au pas avec des contrats républicains dans lesquels, en gros, maintenant, il paraît bien joué l'affaire. Il paraît à peu près normal que les associations endossent des valeurs qui sont des valeurs soi-disant transcendantes pour pouvoir exister, c'est-à-dire que, voilà... Bientôt, on ne pourra pas avoir d'association royaliste en France parce que ce n'est pas les valeurs de la République. Enfin, je veux dire, y a eu cette espèce de chose comme ça qui est de rouleau compresseur. Voilà. Et là, je pense que là, ça c'est délibéré, me semble-t-il, hein, cette idée d'aller vite pour éviter que les choses soient possibles.
Bon, moi je vais me faire le point de. Écoutez, d'abord, je pense que ça serait bien aussi de réfléchir au scrutin dans sa dimension européenne, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas qu'un problème national, mais que donc c'est plutôt une vague de fond européenne, voire même internationale, parce que j'attends de voir si Trump n'arrive pas au pouvoir aux États-Unis. Et donc, on ne peut pas expliquer le succès absolu des extrêmes, de l'extrême droite, plus exactement, simplement par Macron, parce qu'il n'y a que nous qui avons la chance de l'avoir, Macron. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et le deuxième, c'est qu'on a un état de déliquescence, je trouve, des partis politiques, qu'on n'a jamais atteint. Et donc, je pense que l'on raisonne à moyen terme, qu'il ait laissé 3 mois... ou qu'il ait laissé 3 semaines, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, c'est pas sur la... Tu laisses 6 mois à la gauche et c'est sûr qu'elle se reconstitue pas sur aucune base solide. On a affaire à des partis, notamment à gauche, qui ont été incapables de réfléchir sur des programmes vraiment sérieusement. Ce sont des partis qui, eux aussi, ne se sont battus que comme des écuries pour soutenir des personnes. Donc, en fait, on a une panne. On a une panne vraiment une crise des niveaux politiques. Et je pense que il n'y aurait pas le coup de pied dans la fourmilière là et la donnée de l'urgence. On n'aurait pas d'accord. On était en train de vomir la NUPES et il n'y aurait pas eu d'accord. Cet accord, il durera très très peu de temps. Je pense qu'à droite et à l'extrême droite, ça va être exactement pareil. Tôt ou tard vont sortir les conflits entre Bardella et Marine Le Pen. Enfin bon, voilà. Et il n'est pas dupe, Macron. Et il veut tirer, gagner à lui, tirer les barons du feu. Justement, il veut tirer les marrons du feu de cette décomposition qu'il a souhaitée, qu'il a mise en œuvre et qu'il est en train de parachever.
Oui, mais il va se retrouver avec une chambre qui sera totalement inefficace. Oui.
Voilà. Moi, je pense qu'elle sera ingouvernable.
Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on dissout, mais là, il faut attendre 12 mois pour dissoudre.
Je vous ai donné ma proposition.
C'est pas cher.
Je vous ai donné ma proposition. C'est que, contrairement à vous qui dites qu'il n'a fait ça que pour se maintenir au pouvoir... Moi, je n'exclus pas qu'il démissionne et qu'il nous qu'il nous affronte à des présidentielles anticipées.
Oui, oui, oui.
Un ça va mieux presque, non?
Non, mais oui.
Mais non, pas du tout, parce qu'on aura plutôt Madame Le Pen, plutôt que prévu, peut-être.
Alors, qu'est-ce qu'il vous avez rappelé fort justement? Que l'extrême droite émerge, alors il faut relativiser, le Parlement européen normalement ne sera pas vraiment bousculé par cette poussée d'extrême droite.
Non.
On devrait rester dans les équilibres anciens.
D'accord.
Pour le moment. Peut-être que dans 5 ans, ce sera différent. Qu'est-ce qui, selon vous, pousse des électeurs à peu près sains à aller voter pour des gens qui ont un programme politique indigent et qui sont dans l'incapacité de gouverner, parce que on l'a vu chaque fois qu'ils se trouvent confrontés à des réalités. Quand Attal et Bardella ont débattu, on a très bien vu qu'il y en avait un qui avait un petit poids dans le crâne et qui ne connaissait absolument pas ses dossiers. Donc qu'est-ce qui pousse des gens sensés à aller voter pour des politiciens qui ne sont absolument pas en état ni de les représenter, ni de tenir le pays dans des conditions à peu près normales.
Eh bien, je pense que ce qui souffle, c'est un vent de dégagisme et de...
Non, mais on a beau dégager, mais il faut mettre quelque chose à la place.
Et de populisme, mais de gens qui se sentent déclassés, méprisés, qui se sentent menacés et qui ont envie d'en découdre avec les élites. Dont
si on peut parler
d'élite. Représente. Hein,
si on peut parler d'élite.
Oui, si on peut parler d'élite. Mais il y a vraiment ça. Il y a un anti... et qui ont envie d'en découdre. Voilà. Et donc, les programmes, ils s'en fichent. Mais on n'en a pas parlé la dernière fois des programmes. J'aurais aimé qu'on aborde la question des programmes.
Allez-y.
Mais c'est vrai. Il y a tout et son contraire. Mais dans le programme de LFI, c'est pareil.
Et oui,
c'est
tout à
vraiment...
fait.
C'est open bar. Il manque pas un bouton de guêtre. Il y a plein de choses qui sont totalement...
Ce que les gens ont envie d'entendre, c'est le populisme.
Et pour du côté du RN, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que les gens s'en fichent, ils ne lisent pas les programmes. De toute façon, ils sont bien informés, les gens. Ils ne sont pas complètement idiots. Ils savent très bien que les politiques, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font absolument ce qu'ils veulent et le programme, ils s'en contrefichent. Donc, c'est pas ça qui les intéresse. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui les intéresse?
Eh bien là, peut-être que les gens ont cru qu'il allait remettre en question la loi sur les retraites. Peut-être. Peut-être qu'ils sont tout à fait contents d'avoir la perspective.
Bardella a déjà dit qu'il ne la toucherait pas. Donc,
oui, voilà. Il
l'a dit maintenant, mais enfin, bon, ça fait des ordres.
Oui, ça fait des ordres, c'est vrai.
Jean-François.
Oui, moi, je crois qu'il y a une partie comme ça. Je préfère les questions du début. Elles sont vachement plus simples, si c'est Balzac et tout ça, que la question de qu'est-ce qui amène les gens à voter pour le Front National.
C'est quand même surprenant.
C'est une énigme.
À une époque où on sait tout, où on peut se renseigner. Il y a peut-être des époques où c'était beaucoup plus obscur. Aujourd'hui, celui qui veut savoir qui est qui, quelle est la situation géopolitique, sociale, économique, il peut très bien le savoir. Alors, vous avez dit, Laure, ça ne les intéresse pas, les gens s'en foutent. Ça veut dire que...
Mais ils n'ont pas confiance, les gens. Ils n'ont pas confiance dans la capacité des élus à respecter les programmes sur lesquels ils se sont
certes,
engagés.
Certes, mais ils ont des valeurs, ces élus. Des valeurs qu'ils affichent. Le Front National, ce n'est pas neutre.
Les élus n'ont pas de valeurs, souvent, et ce sont des opportunistes qui ne... Regardez Ciotti, pour moi, c'est clair, quoi.
Qui ça,
c'est
Bonite un...
Je ne veux pas regarder Ciotti.
C'est vraiment non. quelqu'un qui...
Sauf qui peut.
Qui n'a... Il y a des
élus. Il est enfermé.
Franchement, il y a des élus... Je pense qu'ils sont des hommes de conviction. Moi, j'en suis persuadée. Je pense qu'un type comme Édouard Philippe, par exemple, c'est pour moi un homme de droite dont je ne partage pas les points de vue, mais je pense que c'est un homme sincère, c'est un homme de conviction. Je ne pense pas qu'il change de chemise comme ça pour des raisons d'opportunité. LR,
surtout c'est quand la chemise est noire.
C'est une catastrophe. Voilà. Ciotti, c'est le cas. Mais il y en a combien qui ont tourné
Ciotti,
leur veste ?
Mais Ciotti, c'est rien intellectuellement. C'est quoi ?
Non, mais c'était quand même le patron.
C'est
DLR,
le président des Républicains.
C'est quand même le patron des LR. Oui, c'est enfin, quand même bon, un type qui a Vincent Bolloré derrière lui.
Oui, les Républicains, combien de divisions ? Non, mais je crois surtout que
Divisions...
Vincent Bolloré, il est derrière l'extrême droite, plus que derrière Ciotti.
Si on veut remettre dans le contexte, qu'est-ce qui amène des gens à voter pour le Front National ? Et c'est une petite partie des gens à voter pour le Front National et une énorme partie de gens à ne pas voter du tout aussi. Je veux dire, c'est là aussi, les pourcentages, on a tendance des fois à faire des confusions entre les votants, les exprimés. Je veux dire, le Front National, au niveau des inscrits, c'est pas 30%. Il y a aussi toute une partie de la population qui, effectivement, ne se déplace pas pour voter. Alors, je partage... Alors, c'est compliqué, ça. Qu'est-ce qui... Les gens, voilà, la catégorie sociologique, comment on dit ça, les gens. Il y a la question du manque complet de confiance dans les élites et dans le système aussi, hein. D'ailleurs, de toute façon, ça ne sert à rien de voter, si ce n'est à se soulager. Ça ne sert à rien de voter pour arriver à ce qu'il y ait des gens qui aient une politique construite, élaborée, avec les contradictions dans lesquelles on est. Non, là, il faut... Alors, la deuxième des choses, je pense que ce qui amène les gens à voter, c'est la haine. La trouille et la haine.
Oui.
Ça, on n'en parle pas. Je pense, oui. La trouille et la haine. C'est-à-dire que cette histoire du déclassement... La trouille, je pense qu'il y a une... Moi, je suis... Alors, encore une fois, c'est terrifiant quand on regarde ce que regardent les gens dont on parle. La téloche, excusez-moi, c'est terrifiant. Moi, je ne regarde plus parce que je ne vois que les titres. Et c'est quand même assez surprenant. Je veux dire, la trouille... Je connais des gens qui sont des gens qui ont voté Front National, certainement, et qui ont voté ça pour deux raisons. C'est parce qu'ils ont la peur de gens qu'ils arrivent à haïr. Alors, ils sont bronzés, en règle générale. Ils sont arabes, ils sont musulmans. Parce que ça aussi, quand même, hein, le discours du Front National, Bardella a un magnifique costard et ferait un gendre idéal. Mais ce dont il parle... dans le texte et dans le sous-texte, c'est quelque chose qui flatte le cerveau reptilien. Et c'est pas le plus compliqué à faire hein, vis-à-vis de gens qui, je pense, sont en souffrance parce que ce qu'on leur a laissé imaginer est quelque chose qui n'existe pas ou qu'ils n'arrivent pas à vivre. Les gens dont je parle sont des gens qui sont... Alors, qui sont, j'allais dire, socialement dans la merde. Quand on voit dans certains pays dans quoi vivent les gens, ils sont pas dans la merde. Mais par rapport à ce qu'ils espéraient, il y a, comme qui dirait l'autre, de la souffrance sociale qui fait que ça produit de la haine.
Jean-François, il y a beaucoup dans les campagnes notamment, où on n'a jamais vu un émigré. Vous avez une campagne, j'en ai une aussi. J'ai regardé les résultats. Oui. Quand je vois que dans un petit pays comme le mien, Bardella arrive que très largement en tête, alors qu'ils n'ont jamais vu ni un noir ni un arabe sur mes côtes du Lot, on peut quand même se poser la question de savoir comment est-ce que les gens sont suffisamment... Allez, je vais le dire, c'est pas bien. Est-ce que les gens sont assez cons pour se faire enfumer de cette manière ?
Mais la réponse est dans la question. Quand on voit les résultats. Mais c'est peut-être pas une histoire. En fait, je veux dire, c'est la connerie. Bien sûr que c'est du. C'est pour ça que je parle de cerveau reptilien. C'est des raccourcis qui font que c'est compliqué de penser. En fait, on est dans des sociétés compliquées. Qui sont à la fois extrêmement satisfaisantes sur un certain nombre de plans, mais qui par ailleurs sont complexes. Hein. Et quand ça marche pas, quand ça marche bien, et quand on est bien intégré là-dedans et que ça, c'est du feu de Dieu, en règle générale, je ne pense pas qu'on vote beaucoup au Front National, on vote peut-être un peu Zemmour par. Marion Maréchal. Mais quand on vote Rassemblement National, on se soulage de trouille et de haine. Hein. Parce qu'on n'est pas bien et parce que je pense qu'on imagine qu'on n'est pas récompensé des efforts qu'on fait socialement. Voilà. Et que c'est toujours les mêmes qui en profitent.
En votant Front National, on vote un peu quelque part, toute proportion gardée, pour M. Poutine. On sait ce qu'il en est, on sait qui il est. Personne dans notre pays ne peut l'ignorer.
Mais quelques connaissances.
Oui, mais si on vote les filles, c'est pareil.
La Russie est très intéressée.
Non, mais moi, je me demande où on va, là, où ces discussions, la discussion qu'on a ici, là, maintenant, peut nous mener. On va quand même pas se répéter à longueur de journée, là, jusqu'au 7 juillet, mais comment se fait-il que tous les Français soient aussi cons? C'est pas possible.
C'est la première question qui vient à l'esprit. Après, il va falloir la dépasser. Vous avez raison. Alors.
Oui, là, je crois qu'il faut faire un effort.
Mais alors, vers où allons-nous? Dites-nous, comment on fait?
Passer cette
première interrogation sur laquelle on n'a pas vraiment de réponse, comment on fait?
Voilà, je crois que... moi, je suis vraiment très en colère contre... En effet, le pouvoir en place, parce que je pense que au lieu de d'œuvrer idéologiquement à la disqualification des thèmes du Front National, il n'a fait que les consolider.
Absolument.
Et d'ailleurs, encore à la conférence de presse, grosso modo, moi, ce que j'ai entendu comme message, c'est « Ne vous inquiétez pas, camarades, nous allons faire un peu plus de sécurité. » Et je me dis « Mais c'est pas possible. » Et je suis en colère parce que la gauche, je ne l'entends pas. La gauche, j'ai pas entendu qu'elle fasse vraiment des choses intéressantes. Elle a sur pour essayer d'abonder même une autre vision de la question de je sais pas des migrations. On s'est fait complètement écraser. On s'est fait complètement écraser dans ce débat et éliminé dans ce débat. Donc la question pour moi, c'est comment on reprend le leadership idéologique en fait.
C'est un travail de longue haleine qui nous prendra des mois,
c'est
voire plus de ça.
C'est la fameuse histoire de temporalité, ça.
Voilà.
Et pourquoi on l'a perdu? Est-ce que c'est cyclique? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on a perdu absolument, complètement, sur le plan philosophique et politique?
Donc on se perd en conjecture, si je comprends bien. Jean-François.
Ouais, je crois que la gauche, en tant qu'appareil politique institué, les partis politiques, ont perdu le lien avec ce qui, à un moment donné ou un autre, a produit de la pensée qui est de la pensée de gauche. Les partis politiques, comme vous le disiez fort justement, sont des espaces dans lesquels on prépare des gens à des élections.
Oui, ce sont des machines électorales,
Les quelques fois où j'ai assisté à des réunions qui étaient des réunions dans des partis de gauche, où j'étais invité, je suis encarté nulle part, voilà, je le dis comme ça. Mais ça m'arrive des fois pour parler de droits de l'homme, de questions de migration, des choses comme ça. C'est quand même un désert qui est un désert idéologique, de réflexion. Et cet espace-là est pris par des règlements de compte sans fin, en plus, aujourd'hui. Hein, y compris à l'interne d'un même parti politique, il peut y avoir des histoires qui sont une histoire de règlements de compte. C'est ça qu'on a perdu. C'est comment arriver à réarticuler une pensée qui soit une pensée des conceptions, des principes, des stratégies, des choses comme ça. Qui ont relativement disparu. Il y a très, très peu d'espace de ce point de vue-là.
Et moi, je me demande si ce ne serait pas efficace, par exemple, d'avoir une politique beaucoup plus ouverte, finalement. beaucoup plus ouverte vers le centre, par exemple, et vers un affichage justement sur des valeurs humanistes, et moins clivée. Et je me demande si on ne s'est pas laissé prendre justement dans si la gauche, elle ne s'est pas perdue, au fond, dans des alliances, notamment avec une fraction de LFI qui, je vais reprendre la phrase de Glucksmann, puisque j'ai entendu qu'il l'utilisait, mais qui a brutalisé, en effet, le débat politique, je trouve, à très mauvais escient. Et voilà, c'est des questions que je me pose, que moi, depuis dimanche, moi qui ai une tendance gauchiste à foutre le feu, je me dis, mais non, peut-être qu'il y a à refonder quelque chose si de plus humaniste, de plus responsable, de plus respectueux, à la fois des croyances, des origines, et voilà, peut-être qu'il faut entièrement revoir le logiciel des alliances.
C'est une proposition, je vous propose.
Justement. Non, je suis pas. Moi, je partage pas cette idée que. Je pense qu'il y a une brutalisation. Il y a eu une brutalisation de l'espace politique par la LFI, mais il y a des brutalisations qui sont beaucoup plus perverses que celles qui font du bruit. Hein, je veux dire, la violence peut être infiniment plus.
Voilà. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Darmanin c'est brutalise beaucoup plus, bien plus.
Oui, en plus, quand il brutalise ça, je veux dire, on en parlait tout à l'heure, ça éborgne. Je veux dire, j'ai rarement vu le. Voilà. C'est la seule manière. D'une certaine façon, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, de se faire entendre. C'est la seule manière de se faire entendre à l'Assemblée nationale.
Ce sera le mot de conclusion, je vous propose de...
Je ne justifie pas, au passage, mais c'est pour moi que c'est dans une cohérence. C'est dans une cohérence dans laquelle, quand on n'est pas du côté du manche, la seule manière de se faire entendre, c'est effectivement d'être violent. On connaît ça, hein, quand même.
C'est vieux comme les
mouvements sociaux, les révolutions, les révoltes, tous les trucs comme ça.
C'est une
mise
escalade.
En spectacle. Oui.
Oui. Alors, il nous faut une transition pour parler du sujet suivant. On le fait pas d'habitude, mais
sur la brutalisation.
Oui, voilà. On va sur le sujet suivant. Effectivement, on n'a pas besoin de transition. On va aussi parler de brutalité, mais justement, la musique, quelque chose qui adoucit les mœurs. Je vous propose à la fois de nous l'adoucir et de dire au revoir à une grande dame de la chanson qui nous a accompagnés, vu nos âges vénérables autour de cette table, au moins des commentateurs, pas des autres. On écoute Mon ami la rose, juste.
Hein, ça a été votre adolescence.
Et oui, puis la rose, hein, on en a entendu parler à une certaine époque.
Oui.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de jardin. On met bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. celui qui peut croire. Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Voilà Françoise Hardy, mon ami la rose, pour retrouver un peu de sérénité, pour écouter Lydia Dantas qui va nous parler un peu de la partialité et de la censure qu'elle a cru déceler dans le traitement journalistique de la guerre Israël-Palestine. Lydia, c'est à vous.
Donc pour commencer, je vais poser des chiffres. En 17 reportages et 5 directs aux 20h de France TV, France 2, le mot colonisation n'a pas été une seule fois prononcé par un journaliste. Le sujet Palestine-Israël est un sujet quand même lassant pour la plupart des Français à cause de sa longue durée. Donc oui, en effet, le conflit dure depuis 1948 à la proclamation de l'État d'Israël. Donc c'est un sujet complexe à cause de sa couverture médiatique qui fait justement l'objet d'un débat public intense. Donc entre début janvier et octobre 2023, France 2 a consacré seulement 10 sujets sur le conflit, dont le temps de parole était de 33 secondes pour les Palestiniens, donc c'est vraiment très peu comparé à la parole donnée pour les Israéliens. Sur BFM TV, les Palestiniens, eux, sont majoritairement contredits ou ne sont même pas écoutés, et c'est énormément taire la parole, justement, palestinienne. C'est une chose, justement, voulue des médias français. On parle seulement du conflit quand il y a des pics de violence, alors que chaque jour, il y a quand même des énormes violences commises par l'armée israélienne, Tsahal, dans les territoires occupés palestiniens. Donc c'est quand même une déconnexion de ce que vivent les Palestiniens, et on parle même de l'occidentalocentrisme et de déni de nombreux médias.
Alors les mots, ces mots qui sont au service de la politique, qu'est-ce que vous en pensez, Lydia ?
Ben, dans les médias, c'est très facile de se faire manipuler avec des titres et des mots, surtout quand il y a un manque d'informations qui est nécessaire à la compréhension d'un sujet, et donc du sujet Israël-Palestine. La couverture médiatique fait l'objet d'un débat public intense, car les journalistes ne font pas preuve d'objectivité. On parle de partialité des journalistes dans les termes employés, donc qui peuvent soit diaboliser les Israéliens, soit victimiser les Palestiniens. Donc j'ai quand même des exemples à vous donner. Il y a les verbes « mourir » et « tuer » qui ne veulent pas forcément dire la même chose. L'un favorise un camp en le victimisant, l'autre diabolise l'autre camp. Nous parlons souvent des territoires palestiniens. Donc cette fois, les mots employés sont soit territoire occupé, soit territoire disputé pour les Israéliens. Il y a aussi le terme de barrière, qui est une reprise du terme barrière de sécurité par les autorités israéliennes, contrairement aux pro-palestiniens qui utilisent plus le terme de mur pour mettre en lumière l'annexion et l'apartheid israélien. Il y a aussi des choix éditoriaux qui sont faits sur de nombreuses unes. Donc il y a des portraits de victimes israéliennes avec des noms, des visages et un champ lexical plutôt affectif, alors que les victimes palestiniennes sont réduites à de simples sommes. Dans les titres, par exemple, on peut voir 100 morts, 200 morts, 1000 morts. Et du coup, les victimes peuvent tout simplement aussi ne pas être mentionnées.
Alors, c'est le 7 octobre qui a tout initié, ça, là que ça a commencé ?
Et justement, non, c'est les médias, ils veulent montrer que tout a commencé le 7 octobre, alors que non, ce traitement médiatique met en place l'image qu'Israël veut véhiculer, celle d'une riposte, de représailles, une réplique. Alors que pour un aussi long conflit, on peut parler de riposte au blocus de Gaza, mais aussi de colonialisme depuis des années. Et donc c'est un raccourci. On parle même de guerre Israël-Hamas, mais cette formule pose un gros problème qui se focalise juste sur une représentation du conflit. La balance Israël et Hamas n'est pas du tout équivalente, car Israël possède une énorme armée avec des artilleries lourdes. Cette formule mène aussi à une invisibilisation,
c'est très
exactement.
Dur à dire. C'est pas le plus simple.
Géographique. et politique, comme si la guerre menée par Israël n'était pas menée contre l'ensemble des Palestiniens, alors qu'on sait justement qu'il y a beaucoup de morts civiles, des civils. Mais aussi cela censure le fait qu'Israël agit bien sur l'ensemble des territoires palestiniens depuis de très longues années et qui n'a pas attendu l'attaque du Hamas donc du 7 octobre. Sans parler que cette formulation Israël-Hamas détache complètement le territoire de la Cisjordanie et donc ça enlève la question de la nation palestinienne.
Merci Lydia pour ce papier. Laure Ortiz, qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est intéressant parce que ça vient un peu conforter des idées qu'on peut avoir, mais avec quelques demandes de précision quand même. Le travail que vous avez fait, c'est à partir des journaux simplement, d'une chaîne.
C'est une enquête, il y a eu Mediapart qui en a parlé, il y a eu aussi Blast, et c'est vraiment des enquêtes qui ont été poussées sur cette période-là.
Ah d'accord, mais c'est pas vous qui avez observé des...
J'ai observé, c'est pour ça que j'ai cherché, j'ai fait des
petites recherches. Il y a deux choses. Il y a les journaux qui racontent tous les jours. Et là, en effet, je pense qu'ils ont une certaine façon de dénoncer les choses. Et ils se mettent plutôt du côté de la doxa, alors comme on a un gouvernement qui a une certaine analyse... Hein, qui est plutôt compréhensive à l'égard d'Israël. Donc on a des choses qui sont très lisses, qui risquent pas de heurter, en effet, le camp israélien. Mais en revanche, du côté des Palestiniens, en effet, c'est ce que vous dites. Mais il y a pas que les journaux, il y a aussi énormément de débats. Et je trouve que dans les débats, à la télé et ailleurs, ou dans les journaux aussi, on a des prises de parole qui sont beaucoup plus... contradictoire, il y a de la contradiction, non ?
Oui, ben justement, moi j'ai regardé ce sujet grâce à BFM TV. On peut voir que les Israéliens en sont énormément écoutés. Il y avait même, je pense que c'était un membre de l'armée de Tsahal qui était énormément écouté, alors qu'il disait des choses pas forcément éthiques ni morales. Et pourtant, il a eu énormément le droit à la parole, alors que justement, un docteur Gazaoui, si je me souviens bien, lui, il était, c'était très vite fait. On l'écoute vite fait et c'est au revoir, quoi. Et donc, oui, il y a un débat aussi. Dans le débat, on peut le voir, même dans le débat dans la rue, on peut voir ça.
Bien sûr, mais c'est ça. Enfin, je trouve que ça rend bien compte de ce qu'on vit dans les universités, par exemple, ou ce qu'on vit dans la rue. En effet, je pense que le droit de manifester son hostilité à des formes de représailles qui sont totalement odieuses au regard du droit international humanitaire en raison des morts civiles, on n'a pas le droit de l'exprimer. On sent bien qu'il y a une répression... en fait, une interdiction de cet énoncé. Et ce qui me semble important, c'est ce que vous avez dit sur le fait qu'on fait semblant que tout a démarré le 7 octobre et que donc on est dans une logique, au fond, de représailles. Et cette interdiction, en fait, d'évoquer la situation des Palestiniens avant le 7 octobre. Ça me fait penser au débat de Delphine Horviller avec, j'ai oublié son nom, l'écrivaine palestinienne
oui,
ou libanaise.
Je ne me reviens pas, mais je vois de quoi vous parlez.
Et vraiment, mais c'est ça, on dirait qu'il y a, des données de langage, un code de langage. Il y a une interdiction qui est faite d'évoquer la situation, comme si finalement le pogrom du 7 octobre avait réinitialisé. Alors que, bien sûr, il y a une situation inacceptable de colonisation et surtout des formes inacceptables de représailles.
Madame le professeur, une bonne note alors pour...
Oui, bien sûr. Ouais, toujours une bonne note.
Hein. Toujours une bonne note. Merci à toutes les deux. Bon, je vous propose de passer à nos rubriques de fin d'émission puisque l'heure tourne à grande vitesse. Les brèves, une brève, tiens, je commence Jean-François pendant que vous mettez les lunettes.
Le temps que je mette les lunettes.
Voilà, la contestation se poursuit contre l'A69, ce projet imbécile, daté, inutile, hors sol, où des entreprises privées locales y ont quelques intérêts, donc on a remanifesté ce week-end. Dans des plaises à M. Darmanin, ou peut-être même à Mme Delga, qui ne s'est pas beaucoup prononcée contre ce projet.
Discrétion.
De Violette, oui, tout à fait. Et donc, on a remanifesté, mais dans un calme relatif, ce week-end, très longuement d'ailleurs, je pense, Jean-François.
Calme relatif, si vous voulez. Il se trouve que j'étais directement concerné par ce qui se passait là-bas, puisqu'il y avait l'observatoire qui était sur
place. L'observatoire des pratiques policières
qui vient
de rendre son rapport sur ce sujet. Nous en avons parlé ici.
Mais le week-end dernier, il y a le communiqué de la préfecture du Tarn. D'ailleurs, M. le préfet du Tarn est l'objet d'une enquête administrative pour ses comportements en tant que préfet. Mais les communiqués de la préfecture du Tarn expliquent qu'en gros, il y a eu 4 blessés chez les forces de l'ordre et 4 blessés chez les manifestants ne correspondent pas du tout à la réalité qu'on a pu observer. Mais on y reviendra éventuellement.
Certainement. Et pour m'être trouvé... On en parlait hors micro, en face des blindés Centaure, c'est ça, de la gendarmerie.
Ils sont très fiers.
J'avoue que j'ai été stupéfait que l'on oppose ça à des pères et des mères de famille. Et très franchement, je me demande où est-ce qu'on vit dans ce pays. Une autre brève, peut-être, Jean-François ?
Oui, alors moi j'ai une brève... C'est une petite entrefilet qui est passé quasiment inaperçu, mais qui, je trouve, c'est un bon indicateur, un clignotant. Nous venons d'assister en 2003 au premier recul des surfaces agricoles cultivées en bio en France.
Oui. Hein?
Et autrement dit, jusqu'à présent, on était dans une extension de cette culture-là, pour la première fois en 2003, et certainement, en termes de prévision, au moins en 2004, on sera en régression. Et on est dans une logique maintenant de ce qu'on appelle de déconversion, c'est-à-dire que les gens qui s'étaient engagés, il faut 3 ans pour s'engager l'agriculture bio, sont en train de revenir à l'agriculture traditionnelle parce qu'ils s'en sortent pas. Tout ça pour dire qu'on n'est pas quand même parti du bon pied pour se sortir de la situation dans laquelle on est. Voilà.
Laure Ortiz, vous
voulez... Non, je n'ai pas de brève.
Non, vous n'avez pas de brève.
Non.
Alors, il y a la traditionnelle et très complexe rubrique « ça va mieux », c'est-à-dire quelque chose qui aille bien. Alors, j'avoue, défaite complète cette semaine, je n'ai strictement rien trouvé qui aille bien.
C'est-à-dire que le climat n'est peut-être pas très favorable à l'optimisme, Béa.
Oui, voilà. Le climat n'est déjà pas favorable en lui-même, et puis... Non, c'était pas l'or. Peut-être vous avez vu quelques mois. Je ne vois rien qui va bien. Mais
je pourrais être sarcastique. Je dirais que ça va mieux parce que du côté des Républicains, ça a l'air de s'éclaircir. Mais voilà. Mais ce ne serait pas charitable. C'est pas moi.
Bien. Alors nous allons directement passer à notre dernière rubrique, le Conseil culturel. Finalement, je rebondis un peu sur la brève de Jean-François. Moi, je vais vous conseiller un livre qui s'appelle Pesticides, un colonialisme chimique. C'est aux éditions Anna Kaunas, son 6 pages, c'est 3 fois rien. C'est une chercheuse, Larissa Mies Bombardi, qui est brésilienne, mais qui a été obligée de partir un peu précipitamment de son pays. C'est un essai un peu coup de poing, qui nous parle des pesticides pour la santé humaine et l'environnement, qui nous parle des agissements du modèle agro-industriel mondial. Et alors, c'est très intéressant ce livre parce qu'elle est brésilienne. Elle nous parle de ce qui se passe au Brésil. Et alors, quand vous voyez, c'est très renseigné son petit livre, c'est très documenté.
Bolsonaro n'a pas fait.
Voilà, quand vous voyez ce qui se passe là-bas. Alors, il faut savoir quand même que nous sommes, je crois, en Europe. Elle le dit d'ailleurs dans son livre. J'essaye de retrouver ça. Voilà. Nous avons la législation la plus restrictive en matière d'agrotoxiques. Ça, jusque-là, on peut dire que c'est très bien. Mais nous vendons pour 13,6 milliards de dollars, donc ça fait 12,5 milliards d'euros de toxiques qui sont vendus à l'étranger en 2020. Nous sommes donc le premier exportateur de pesticides, devant la Chine, qui n'en vend que pour, entre guillemets, 8 milliards, ou les États-Unis pour 4 milliards et demi. Et alors, il faut savoir que tous ces produits sont répandus très, très largement là-bas. Donc, la situation sanitaire au Brésil, du fait de ces produits, est totalement dramatique. Et alors, les Européens qui l'ont interdit sur leur territoire, les voient revenir par l'intermédiaire des fameux produits que nous vend le Brésil, qui sont farcis, des toxiques, des extrêmement dangereux.
On a
que,
le même phénomène en Afrique.
Voilà, nous avons pareil en Afrique, mais singulièrement. Alors là, c'est très renseigné sur le Brésil. Franchement, lisez-le, parce que par moments, vous avez les cheveux qui se dressent sur la tête quand elle vous parle des violences qui sont faites aux militants écologistes, aux journalistes, aux femmes, aux populations indigènes qui ont été largement exploitées et intoxiquées. Donc, ça coûte 10 euros et très franchement, je pense que c'est un moment pesticides, un colonialisme chimique, l'effet boomerang des agrotoxiques. Voilà, vous trouverez ça dans toutes les bonnes librairies. Je l'ai trouvé personnellement en Bourblanc. Je ne leur fais pas de la pub, mais chez eux, il y a quand même un rayon assez fort sur tout ce qui concerne l'environnement. Et c'est une lecture extrêmement éclairante et surtout au moment où, comme l'a signalé tout à l'heure mon complice Jean-François, le bio est en régression. Malheureusement, pas que le bio, toutes les questions environnementales, surtout si arrivent au pouvoir certains décérébrés d'extrême droite, on a du souci à se faire. Un petit conseil de lecture.
Dans les bonnes nouvelles, après tout, parce que moi j'ai l'esprit d'escalier.
Oui.
J'en ai deux. J'en ai une. C'est la nouvelle présidente du Mexique.
Ah oui.
À voir. À voir. C'est pas mal. Une ingénieure, c'est pas mal. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est parce que j'ai des livres de poésie sous le nez et j'ai appris que il y avait une éclosion de poésie au niveau éditorial, que ça marche énormément, la poésie, et on s'intéresse de plus en plus à la poésie, et même qu'à l'occasion d'une réunion de l'Académie des Jeux Floraux, qui l'eut cru, l'Académie à Toulouse a organisé un concours de slam. Et il paraît qu'il y avait énormément de jeunes.
Si on slame à l'Académie des Jeux Floraux, alors.
Et j'ai trouvé que c'était une excellente nouvelle.
Alors, moi, je peux reprendre, ça fait une transition avec
Jean-François
mon...
Jean-François rebondit.
Je rebondis, oui, alors c'est assez impressionnant d'habitude. Sur la rubrique culturelle, qui est un peu le mélange des genres, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Allez sur le quartier des Isards, place Ahmed Chenan, c'est la place qui est juste devant le métro aux Isards, dans lequel il va y avoir à 20h, à l'initiative du Tacti Collectif, qui est une association culturelle dont on a plusieurs fois parlé, un truc qui s'appelle Expérience Orchestra, avec un mélange, il y a l'orchestre de chambre de Toulouse et aussi des musiques orientales, et il y a une tentative comme ça là de mélanger, de métisser les cultures, ce qui, dans le contexte actuel, je trouve, est quand même un petit peu rafraîchissant au regard du climat un peu pesant. Voilà.
C'est, oui.
Le 21 juin aux Isards, à 20h, hein, ça s'appelle Expérience Orchestra.
Alors,
moi, j'avoue que le climat politique m'a complètement coupé l'envie d'aller faire la fête à Rio Loco. Mais si la forme me revenait, et je pense que ça vous reviendra surtout à nos auditeurs qui sont toujours en forme. Eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a le marathon des mots qui commence quand même du 25 au 30 juin.
Je pense que, alors, le marathon des mots, nous le vivons aujourd'hui, mais moi, je l'écris M-A-U-X.
Oui, c'est ça. Bon, mais il s'écrit aussi M-O-T-S.
Ça s'appelle casser l'ambiance quand on est
jeune. Ouais, non, c'est ça.
Allez, tiens, moi, j'ai deux autres. Jean-François, il a distribué les flyers, mais il n'en a pas parlé.
Oui.
Le festival Toulouse en Liberté, le samedi 29 juin, donc c'est tout proche, de 10h à 18h, aux allées Jules Guest, vous aurez des conférences, vous aurez des débats, il y a un concert gratuit, il y a des animations pour les enfants, un food truck, il y a une buvette, donc ce sera un très bon moment. La Ligue des droits de l'homme est bien sûr à la manœuvre.
Le thème, là, c'est la liberté sous surveillance cette année.
Voilà, il y a une très très belle affiche, un très beau dessin que je vous recommande, et puis une exposition aussi. Qui me fait penser, puisque vous parliez de l'orchestre de chambre, Vivre à l'hôtel, une formule méconnue de mal logement. Donc, c'est une exposition photographique qui est accueillie par la galerie du Château d'Eau du 29 mai au 30 juin.
Au 58 allée Charles de Fitte, puisque le Château d'Eau a déménagé.
Le Château d'Eau est fermé. Voilà, autre chose dont tout plus personne n'a de bons conseils à donner. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Merci à tous. Merci Laure Ortiz de nous avoir rejoints. Merci Lydia. Merci Yanis d'avoir écouté sagement.
Merci Jacques.
Merci Jean-François. On est très urbain. On se remercie mutuellement. Merci aussi à Léo Touroul qui était au bouton. Et vous pourrez bien sûr retrouver le podcast de cette émission avec tous ses petits camarades podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité à toutes et à tous.